bonjour à tous. Donc, je salue aussi tous ceux qui écouteront ce message en différé par Internet. Soyez bénis ce matin. La méditation que je vais vous apporter ce matin, je vais l'intituler « Être un disciple ». Et en fait, le sujet que je veux vous partager est en fait le fruit de mes réflexions durant cette période estivale, suite à des visites, à des lectures, à des moments de réflexion. Et pour introduire ce message, je vous propose une lecture, c'est dans Matthieu 28, verset 19, où Jésus dit à ses disciples, « Allez faire de toutes les nations de disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. » Ce matin, je vous propose, prenez quelques instants, Seigneur, je te prie ce matin de nous rendre attentifs à ce que tu veux nous dire. Seigneur, ouvre notre intelligence, ouvre nos oreilles, ouvre notre cœur. Je te prie, Seigneur, que vraiment ton esprit agisse, que nous puissions retenir ce que tu veux nous dire ce matin. Que ta grâce, Seigneur, nous accompagne. Amen. En fait, ce matin, ce que je vous propose de faire, c'est de voir quelques exemples de disciples du passé. Et ensuite, essayer de définir ce qu'est être un disciple. Et enfin, nous essayons de réfléchir un peu sur ce qu'est la gloire de Dieu. Ce que je vous dis ce matin, c'est que mes propos, ce n'est pas de vous culpabiliser. Ce n'est pas de vous dire ce matin, ah non, moi je ne suis pas un bon disciple. Non, 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 non. Ce que je pense, c'est que je veux nous encourager à faire les bons choix. Mais à faire ce choix en connaissance de cause. De savoir où on va et le prix à payer. Donc, tout d'abord, on va voir des exemples de disciples dans l'histoire. Et puis d'abord, on va s'intéresser aux disciples de l'Antiquité. Diapo suivant. C'est en visitant les arènes de Nîmes cet été que je réalisais le prix payé par les premiers disciples. Les premiers chrétiens furent persécutés durant les 2-3 premiers siècles de notre ère. En fait, ils ont été persécutés jusqu'au moment où le christianisme est devenu une religion à la mode. Mais jusqu'à ce moment-là, eh bien, les chrétiens ont été persécutés. En fait, persécution vient du mot latin persecutio, qui veut dire poursuite judiciaire. Et le plus souvent, les accusations qui ont été portées contre les chrétiens n'étaient pas du fait qu'ils soient chrétiens. Mais souvent pour d'autres motifs. Premièrement, parce qu'ils prônaient des valeurs en opposition aux politiques de l'époque. On les accusait alors de faits inexacts, du cannibalisme, d'inceste et tant d'autres faits complètement hasardeux. Ou bien, on les accusait de désobéir aux lois instaurées par rapport au service militaire ou la non-reconnaissance de l'autorité de l'État. Et même, par exemple, lors de l'incendie de Rome, on considérait que les chrétiens étaient responsables de cet incendie, alors que ça arrivait souvent, des incendies dans la ville. Et on brûla alors 300 chrétiens. Et en partie, on brûla les chrétiens parce que certains chrétiens avaient vu dans cet incendie un signe du jugement de Dieu et l'annonce de la fin des temps. Et ils furent aussi brûlés pour se constituer une minorité. Ensuite, les chrétiens furent persécutés pour les spolier de leurs biens. Lorsque l'Empire avait besoin d'argent, entre 250 30 et 257 ans après Jésus-Christ, justement au moment où l'Empire romain avait de grosses dettes, avait de gros problèmes financiers, eh bien, on a spolié des chrétiens. Parce qu'il était plus facile de s'en prendre à des minorités. Et dans ce cas-là, on s'est attaqué aux personnes de cette minorité. Et alors, on mettait les chrétiens en prison, puis on les envoyait au cirque, et on récupérait tous leurs biens pour l'État. La plupart du temps, les bons portraits chrétiens, ils étaient emprisonnés, torturés, et ils finissaient exécutés lors des Jeux du cirque dans les arènes. Et les arènes de Lille, eh bien, ont été les témoins de ces exécutions. Alors, comment se passaient ces Jeux? Et le matin, il y avait des combats entre les animaux sauvages, des taureaux, des sangliers, des loups, des félins qui provenaient d'Afrique, de cerfs. Et donc, on laissait les animaux se déchirer entre eux, se tuer. Et en fin de matinée, vers midi, eh bien, les riches allaient se rafraîchir et prendre un repas. Mais leur place était alors gardée par leurs esclaves. Et durant ce moment-là, dans l'arène, justement, on remettait du sable, parce que le mot arène vient du sable en latin. Et on remettait du sable sur le sol pour absorber tout le sang qui avait été répandu et pour diminuer l'odeur du reste des cadavres des animaux qui avaient été évacués. Et c'est à ce moment-là, à midi, en pleine chaleur, qu'avaient lieu les exécutions des condamnés. On postait dans l'arène les prisonniers avec des armes rudimentaires et ils devaient se battre jusqu'à la mort. Seul le ou les derniers survivants pourraient avoir la vie sauve et intégreraient alors les écoles de gladiateurs. Et parmi ceux qui se battaient, il y avait aussi des chrétiens. Cependant, il arrivait qu'ensuite, eh bien, ces derniers survivants subissent le même sort que les suppliciés. Et ceux-ci, on les a menés attachés dans l'arène ou accrochés à des poteaux. Et alors, ils étaient torturés, puis donnés en pâture aux animaux sauvages. Et si certains survivaient, eh bien, ils étaient alors torturés, puis exécutés par des bourreaux. Les quelques témoignages de l'époque indiquent que ce spectacle était le plus horrible. D'une violence sanguinaire inexprimable. Les cris, les odeurs des entrailles, du sang. Et les spectateurs dans le cirque, au début, subissaient ce spectacle, mais ne pouvaient quitter leur place, sinon ils la perdaient. Et ils ne pouvaient pas ensuite voir les combats des gladiateurs, qui étaient le moment fort de la journée. Et puis, peu à peu, eh bien, il y a une fascination qui se développa autour de ce spectacle des suppliciés, ce spectacle sanguinaire, et les spectateurs se mirent à apprécier les exécutions des chrétiens. À l'époque, certains chrétiens riches pourraient faire face à cette condamnation, payer des sommes d'argent énormes, ou bien même donner des esclaves chrétiens à leur place. Ou bien même, encore, rendir un culte aux divinités romaines pour ne pas mourir. La question que je me suis posée, qu'on peut se poser ce matin, qu'aurions-nous fait à leur place? Le deuxième exemple du chrétien, d'être disciple, c'est diapo suivante, c'est d'être disciple au XVIIIe siècle. Toujours dans mes pérégrinations estivales, je suis allé visiter la forteresse d'Aigues-Mortes, connue pour la tour de Constance où furent enfermées les femmes au XVIIIe siècle pour leur foi protestante. À partir environ de 1720, et au total de près de 130 femmes sont passées par cette tour de Constance. Et je tiens à rendre hommage à la mémoire de ces femmes ce matin, qui, pour leur foi, subirent des persécutions et pour un certain nombre périr. Alors, sur l'image précédente, il faut bien comprendre que c'est joli aujourd'hui, la tour de Constance. Mais il faut savoir qu'à l'époque, les conditions étaient rudes, l'humidité, le manque d'hygiène. Ces femmes étaient dans une grande salle, où très humide toute l'année. L'hiver, c'était le froid. L'été, c'était la chaleur, les moustiques. Et toutes les maladies faisaient que de nombreuses personnes mouraient durant leur temps dans cette prison. Et sur la margelle, il est écrit en patois de la région, résister, qui veut dire résister. Et certains disent que c'est Marie Durand, justement, une des personnes dont je vais vous parler, qui est l'auteur de cette gravure sur le sol. Donc, Marie Durand, qui est née en 1711 et qui était issue de parents protestants. Et elle avait un frère aîné, Pierre, qui très rapidement devient un prédicateur important dans une province d'Ardèche où ils habitaient, déjà à l'âge de 19 ans. Et il a dû partir en clandestinité pour échapper à l'armée du roi, qui, en représailles, emprisonna leur père. Marie alors se retrouva seule, et sans doute par besoin de protection, elle se marie alors, en avril 1730, à l'âge de 15 ans, avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle, qui en avait environ 40, et qui s'appelait Mathieu Serre. Mais dès le 14 juillet 1730, les époux sont aussi arrêtés. Mathieu Serre est conduit au fort de Brescou, dont il ne sortira qu'en 1750. Le frère de Marie fut arrêté en 1732 et il fut pendu à Montpellier. Marie Durand, elle, est envoyée à la tour de Constance, à Aigues-Mortes. Et lorsqu'elle y est arrivée, il y avait 26 femmes qui s'y trouvaient déjà. Très souvent, c'était des prophétesses qui étaient venues la plupart du Languedoc. Marie Durand fut internée pendant 38 ans dans cette tour. Un autre exemple, c'est Isabeau Amat. On pense qu'elle est née aux alentours de 1703. Elle était l'épouse d'un quart d'heure. En fait, ils furent saisis en plein jour lors d'un culte qu'on appelait l'Assemblée en 1742. Et lors du jugement, eh bien, on envoya cette femme avec cinq autres femmes, donc à la tour de Constance, et ce mari fut condamné aux galères. Et il mourut quelques temps après sa condamnation dans les galères. Et cette dame, eh bien, elle y mourut en 1745, après 3 ans d'incarcération. Le troisième exemple que je vais vous donner, c'était Isabeau Monet. Elle est née en 1711. Et elle épousa son mari, un travailleur de la terre, lorsqu'ils étaient âgés de 25 ans, tous les deux. Ils eurent une fille aînée et elle eut un fils qui naquit justement en prison. En fait, ils furent condamnés en 1737 à la prison à vie. Elle fut condamnée à la prison à vie pour avoir assisté à une assemblée une fois. Elle a assisté à une assemblée une fois en 1735. Et sa sœur, Jeanne, qui avait 17 ans, qui était sous le même coup de condamnation, réussit à s'échapper et à s'enfuir en Suisse. Son mari, qui fut aussi condamné, partit aux galères et il mourut en 1742. Arrivé donc à la tour de Constance en 1737, avec un bébé au sein, qu'elle appelait Michel-Ange, Isabeau eut un énorme chagrin lorsqu'elle apprit la mort de son mari. Ensuite, son fils, on lui enleva son fils à l'âge de 6 ans, et elle ne le reverra plus jamais. Et la perte de son mari, de son fils, plus les conditions de vie, Eh bien, finit par faire perdre la raison à Isabeau. Et en 1750, elle fut rendue à sa famille devenue folle. Et elle décède en 1758 à l'âge de 48 ans. D'autres femmes, dont je n'ai pas donné d'exemple, sont aussi passées par cette prison. Et un certain nombre, au bout de quelques années, préférèrent abjurer pour échapper aux souffrances de cette prison. Et devant ces souffrances, devant ces vies détruites, je me suis dit, qu'aurions-nous fait à leur place? Et à travers ces exemples aussi, bien, je me suis questionné, mais si quoi est difficile? Est-ce que nous sommes réellement des disciples? Un disciple étymologiquement, ça veut dire élève. Il s'agit donc d'une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître, qui apprend à un maître une science ou un art, et par extension, c'est quelqu'un qui va adhérer à un enseignement, à une doctrine, à la manière d'être d'un maître ou d'une école. Et d'ailleurs, du terme disciple découle la discipline, l'obéissance, le respect à des règles, à un enseignement, aussi la maîtrise de soi, le sens du devoir. Darby écrit, le mot disciple va quelquefois plus loin que celui de chrétien. Un disciple est instruit par son maître, tandis que le vrai chrétien tire souvent leur instruction du monde, de leur propre sagesse et de leur pensée. Un homme pourrait ainsi être un chrétien sans être disciple. Il veut désirer un christianisme honorable parmi le monde, ce qui est le contraire de la pensée de Christ, tandis que le disciple connaît et suit la pensée et l'instruction de son maître. On peut être un enfant de Dieu, posséder la vie éternelle, le pardon de ses péchés, sans être pour autant un disciple de Jésus. La Bible dit, dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Romains 10, verset 9, verset 10, dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à sa vie. Le racheté, donc, est celui qui a confessé Jésus, qui a reconnu le sacrifice à la croix pour la rémission de ses péchés. Ce sont les personnes qui ont accepté Christ pour leur sauveur, mais non comme le Seigneur de leur vie. Ils sont des rachetés, mais pas des disciples de Jésus. Diapositive suivante. Le disciple de Christ est celui qui vient écouter ses enseignements, mais non pratique, suit ses traces et lui ressemble. Alors c'est vrai que ces conditions devraient être remplies par tout vrai enfant de Dieu. Mais combien de nous se contentent d'être sauvés et se soucient peu des droits que le Seigneur a sur nous, ignorant délibérément que nous ne sommes plus en nous-mêmes, mais que nous appartenons à celui qui nous a rachetés au prix de son sang. Paul, dans 1 Corinthiens, au chapitre 6, au verset 19 et 20, dira « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Or, ce n'est pas ce que le Seigneur attend des siens. Il disait que nous serions non seulement ses rachetés, mais aussi ses disciples, ses serviteurs, ses témoins. Dans le Corinthien, il est écrit au chapitre 5, il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui, pour eux, est mort et a été ressuscité. Dieu veut que sa vie soit vue en nous, à la gloire de son nom. quand on pense à cette notion de racheter, cette notion de disciple, on comprend alors le passage dans Jean 13, où Jésus dira, Simon Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne se trappe pas que tu ne m'aies renié trois fois. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures dans le royaume de mon Père. Ça veut dire qu'ici, il y a une demeure pour les racheter, mais il y a aussi une demeure pour les disciples. Lorsque Jésus enseigne ce passage, il s'adresse à ses disciples, ceux qui lui sont restés fidèles, parce que plein sont partis. Pour ceux qui meurent en tant que disciples, ou rachetés, ils sont sauvés et ils ressusciteront. La Bible le dit. Par contre, lors des derniers temps, il est écrit que l'Église sera enlevée. Quelle sera cette Église qui sera enlevée? Est-ce qu'elle sera constituée des rachetés des disciples? Ou bien sera-t-elle constituée que des disciples? En fait, elle sera constituée de ceux qui attendent et espèrent le retour de leur Seigneur. De ceux qui, justement, sont en communion avec nous et désirent une communion encore plus grande, d'être enfin dans la présence de Dieu, et aussi pour ceux qui sont maltraités, attristés, afin qu'ils soient consolés. Il est écrit dans Hébreux 3, justement, « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » Ce matin, je veux nous encourager à demeurer en Christ, à progresser dans une démarche de discipline. En fait, si on peut résumer, je vais montrer par une diapo tout ce que je viens de dire. En fait, au départ, eh bien, nous sommes des incrédules, des gens loin de Dieu. En passant par la croix, qui symbolise notre conversion, en reconnaissant le sacrifice de Jésus pour nos vies, alors nous devenons des rachetés. Suivant. Or, il ne nous est pas possible de rester là. Car très facilement, nous pouvons chuter et retomber dans l'incrédulité. Par contre, en nous mettant en marche, ici, nous allons progresser dans la vie disciple. Et alors, même si nous tombons, si nous nous écartons un peu du chemin, nous restons rachetés et nous pouvons poursuivre notre progression et développer les qualités de disciple. Alors, vous allez me dire, quelles sont les qualités du disciple? Le disciple est celui qui cherche sa place à son maître, à son Seigneur. Et donc, il va rechercher la communion avec son Dieu. Il recherche une relation intime avec lui. Il a soif de connaître Dieu. Il craint de le décevoir, de l'attrister par des infidélités. Tout comme un époux ou une épouse se gardera d'être infidèle à son conjoint pour ne pas le décevoir, briser la confiance mutuelle par amour pour lui ou pour elle. Et bien de même, le disciple va tout faire pour garder la relation avec son Dieu. Cette connaissance, cette relation avec Dieu, nous ne pouvons la développer qu'à travers sa parole, sa lecture, sa méditation et la prière. Donc, un disciple se caractérise bien davantage par ce qu'il est, son identité, que par ce qu'il fait, c'est-à-dire son activité ou son activisme. Je répète, un disciple se caractérise bien davantage par ce qu'il est, son identité, que par ce qu'il fait, son activité, son activisme. C'est d'ailleurs ce que dit Jésus en substance dans Marc 7, à partir du verset 21. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce qui va faire la différence entre le disciple, quand je parle de son identité, de son être intérieur, la Bible dit que Christ est en nous. Et en fait, on n'a pas à faire un effort pour ressembler à Christ, on doit juste laisser Christ se manifester en nous et lui laisser prendre toute la place pour justement développer les qualités qui étaient ses qualités. La première de ces qualités, c'est le renoncement à soi. Matthieu 16, à partir du verset 24, dit « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Renoncer à soi-même, c'est ne plus faire du moi le centre de sa vie. Parce qu'en fait, c'est Christ qui en est le nouveau centre. On dit d'ailleurs que le christianisme, c'est Christ remplaçant le moi. Renoncer à soi, c'est laisser de côté tout ce qui est de l'homme, toute la prétention de moi. Suivre Christ implique l'abandon de notre volonté personnelle, une séparation délibérée et volontaire de ce qui empêcherait de le suivre. Mais comme je vous l'ai dit, ce renoncement à soi-même et au monde ne peut pas être le fruit de notre effort personnel. Il faut que nos cœurs soient étreints par l'amour de Christ. Et seul l'amour du Seigneur pour nous peut nous engager à le suivre dans le sentier du renoncement. C'est une question aussi lorsqu'on voit parfois dans les médias, particulièrement sur Internet, le culte de la personnalité de certains prédicateurs. Je me demande si réellement ils ont renoncé à eux-mêmes. Qui va tenter d'être un disciple par sa propre force, par l'action de sa propre volonté, serait comme un homme commençant à construire une tour sans en compter le coût, ou comme un roi allant à la guerre avec 10 000 contre un roi qui vient avec 20 000. Le prix à payer pour un disciple dépasse les ressources de l'homme. Et ça me fait penser à quelque chose que j'ai entendu hier sur la théologie du plaisir. Lorsque une petite histoire, c'est quelqu'un qui avait eu sa maison, avait eu un fort gel pendant l'hiver. Et donc tous les tuyaux étaient gelés. Et le plombier est venu réparer, ressouder, enlever les morceaux de tuyaux, il y avait de l'eau gelée, à ressouder. Et il a dit, maintenant, on va remettre la pression. Parce que quand on va remettre la pression, eh bien, on va voir les fuites. Et en fait, il en est de même pour notre vie. Lorsque tout va bien, on peut avoir une image d'être un disciple de quelqu'un qui a les valeurs de Christ. Mais lorsqu'on remet la pression, lorsque la pression est sur nous, lorsque des choses difficiles viennent dans notre vie, eh bien, à ce moment-là, la vie de nature ressurgit. Ce sont les fuites. Et c'est justement dans les moments difficiles, dans les moments où il y a une pression, que l'on voit réellement ce que nous sommes. Ensuite, les qualités du disciple, ce sont les caractères du maître. Premièrement, vous avez l'humilité. Jésus dira, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Ensuite, il y a la compassion. Le mystère de Jésus est porté par sa compassion. La plupart des miracles qu'a fait Jésus étaient motivés par sa compassion pour les contemporains. Lorsqu'il a vu les malades, lorsqu'il a vu les personnes en tristesse, lorsqu'il a vu la foule qui avait faim, eh bien, il a accompli des miracles par compassion. Et dans Éphésiens, il est écrit au chapitre 4, 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu aussi, en Christ, vous a pardonné. » Et puis, le troisième, une troisième qualité, je ne sais pas toute, mais je sais que là aussi, c'est l'amour. Jésus a dit dans Jean, chapitre 13, « Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez l'un l'autre, comme je vous ai aimé, que vous aussi vous vous aimiez l'un l'autre. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. » Et ce dernier point est essentiel. Il n'est pas possible de développer un état d'esprit de disciple sans l'existence d'une communauté qui partage le même désir et développe les mêmes qualités. Diapositive suivante. On ne devient pas disciple tout seul, on le devient ensemble. En effet, c'est si vous développez les caractères du maître. Les autres vont vous écraser. Profitez-vous, vous utilisez. On l'a entendu dans le don spirituel de ce matin. Des personnes qui ne chantaient pas parce qu'on leur a dit qu'ils chantaient faux. Est-ce que c'est une parole d'amour? Et qu'est-ce qu'on finit par faire? Eh bien, on finit par décourager ceux qui veulent devenir disciples. Par contre, si nous développons collectivement ce caractère, nous allons progresser et être encouragés les uns les autres. En étudiant l'histoire de Marie Durand et de ses co-détenus, ce que j'ai constaté, c'est que sans l'aide, l'apport de vêtements, d'argent, de vivres, d'encouragement par des courriers des chrétiens et des familles à l'extérieur, ils n'auraient jamais tenu. Et la question que je me suis posée, et que je vous pose, que nous nous posons, c'est que se passerait-il si quelqu'un parmi nous, aujourd'hui, se retrouvait en prison pour un motif quelconque? Que ferions-nous? Jésus dit dans une parabole, car j'ai eu faim, il m'avait donné à manger, j'ai eu soif, il m'avait donné à boire, j'étais étranger, il m'avait recueilli, j'étais nu, il m'avait vêtu, j'étais malade, il m'avait visité, j'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. Dans Matthieu 25, il est dit ensuite, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et tout ce qui prend de ce passage, et remarque qu'on vient ici, c'est qu'on ne précise pas ici que celui qui était en prison était innocent ou coupable. Non, il était juste en prison. Et Dieu va féliciter ceux sont allés lui rendre visite parce qu'ils avaient un état d'esprit de disciple. Mon dernier point, ma dernière réflexion par rapport à ce que j'ai vu cet été, à la connaissance de la fin de tous ces disciples, que ce soit ceux qui sont morts dans la reine, ou ceux qui sont morts dans la tour de Constance, ou bien encore comme la fin d'Isabeau Monet qui est devenue folle, il semble légitime de se demander, mais pourquoi? À quoi ça a servi tous ces martyrs? C'est humainement, c'est la première chose qu'on peut se dire. On peut se dire en tant que chrétien, mais en quoi Dieu est glorifié dans toutes ces atrocités? Où est sa gloire? Où est sa puissance? Et faisons l'écho de cette réflexion, j'ai lu un petit passage d'un livre d'Elie Wiesel qui raconte cette histoire. Elie Wiesel était en prison à Auschwitz et en tant que prisonnier, il assiste régulièrement avec les autres détenus à des exécutions. Et les SS forcent les détenus à défiler devant les condamnés qui viennent d'être pendus et à les regarder. Et un jour, parmi ces condamnés, se trouve un garçon de 12 ans. Et trois jours pour mourir sur le coup, il agonise plus d'une demi-heure au bout de la corde. Et nous devions le regarder en face, dit Elie Wiesel. Il était encore vivant lorsque je passais devant lui. Sa langue était encore rouge, ses yeux n'étaient pas encore éteints. Et derrière moi, j'ai entendu un détenu demander « Mais où donc est Dieu ?» Et j'ai senti en moi une voix qui lui répondait « Où il est, le voici, il est pendu ici à cette potence. » Quand on pense à la gloire, on pense toujours à une action patente, à la célébrité, le succès, le renom, la majesté. Par contre, la gloire de Dieu, c'est en fait Dieu lui-même. Déjà dans l'Ancien Testament, quand Dieu se révèle à Moïse, il ne veut pas qu'on lui construise un temple comme toutes les autres religions. Il veut rencontrer les hommes dans une tente. Manifestation de la présence de Dieu dans la naissance d'un petit enfant. Et Luther dira que Dieu a deux aspects. Un aspect intérieur caractérisé par sa puissance, son amour, et un aspect extérieur caractérisé en Jésus-Christ par la faiblesse et la pauvreté. Et il dira, on ne peut pas compter. Et de même, lors de la nativité, lorsque Jésus est né, il est écrit que les anges sentent la gloire de Dieu. C'est-à-dire la grandeur de Dieu, si on ne comprend pas cette petitesse. Jésus, qui était l'incarnation de Dieu en esprit, a manifesté toute sa vie la faiblesse humaine. Il a eu faim, il a pleuré. Il a vécu une angoisse terrible dans le jardin de Gethsémané, à tel point que sa sueur s'est transformée en sang, et il a révélé la gloire de Dieu en mourant sur la croix. Aucune religion ne peut accepter que leur Dieu ou son incarnation puisse se donner et mourir. Dieu est toujours caractérisé par un être supérieur, tout puissant, au-dessus de tout. Et justement, Paul dira dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, « Nous nous pressons tous à être crucifiés, scandale pour les juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. » Et ici, la folie, c'est aussi parce qu'il y a une inversion. Dans la religion, l'homme est celui qui va se sacrifier pour Dieu, qui va faire des rites pour plaire à son Dieu, qui va tout faire pour essayer de ressembler à son Dieu. Alors qu'avec Jésus, il va être Dieu qui se donne. L'homme n'a plus aucun mérite. Tout a été accompli par Dieu pour l'homme. Ainsi, la gloire de Dieu, sa manifestation à la croix, eh bien, c'est qu'il a manifesté sa personnalité, son amour en se donnant pour nous. Ainsi, quand nous disons « Seigneur, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Manifeste ta gloire en nous. » Nous demandons de manifester Dieu en nous. Nous disons « Donne-moi ta personnalité, que je devienne un autre toi-même, que j'imite Jésus, c'est-à-dire aussi être prêt à finir comme lui. » Et justement, c'est cette révélation qu'ont reçu ceux qui, au cours des siècles, sont morts pour leur foi. Tout que le ciel, dans les actes, au chapitre 7, où il est écrit, mais Étienne repris du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu et dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors, pour conclure, ce matin, je nous encourage donc à décider de nous engager pour Christ. Jésus ne veut pas que vous soyez un élève qui le suive. Il désire être cet ami fidèle, comme il est écrit dans Jean 15, le suivant. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur ou disciple, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alors ce matin, je vous propose qu'on prenne quelques instants pour réfléchir et pour prier. Seigneur, merci parce que ce matin, tu nous parles encore et tu nous montres, Seigneur, le chemin par lequel tu veux nous passer. C'est vrai que ce chemin n'est pas un chemin facile, mais Seigneur, si vraiment nous voulons marcher avec toi, Seigneur, c'est vrai que tu nous montres la route à prendre. Ce matin, je veux prier particulièrement si parmi vous, certains, eh bien, c'est là pour la première fois, ou entendre ce message pour la première fois via Internet, et que vous avez interpellé parce que Jésus a souffert pour nous à la croix. Ce matin, je vous demande justement d'accepter le sacrifice de Jésus afin que vous soyez sauvés. Que ce matin, aujourd'hui, vous acceptez Christ dans votre vie. Ou peut-être que ce matin, vous êtes déjà chrétien. Alors je vous encourage à prendre la décision d'être un disciple, de suivre Jésus, en toute connaissance de cause et des conséquences de votre choix. Mais je veux aussi prier ce matin pour si vous êtes un chrétien, disciple, mais que vous avez été arrêté dans votre marche. Si vous êtes tombé, sachez que Dieu est là ce matin. Et il veut que vous vous releviez, et il est là aussi pour vous relever. Rappelez-vous toujours de ce qu'il a souffert par amour pour vous à la croix. Ce matin, Dieu veut vous relever. Ce matin, Dieu veut vous aider à reprendre la route de ses disciples avec lui. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Et parce que le chemin qui nous trace est un chemin d'excellence.